Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je donne chaque jeudi à partir de 6h du matin la parole à une ou un invité pour retracer ensemble son parcours. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interview. Vous verrez, j'adore vraiment cet exercice. Mais je fais aussi des émissions en direct sur Twitch, tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire ainsi qu'un forum d'entraide. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je suis heureux grâce à ce podcast de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas et de leur donner l'opportunité de peut-être parler de sujets qu'elles ou ils n'ont jamais abordés dans un micro puisqu'ils vont me raconter leur vie de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois JN Abdelila. Cette prof d'EPS a un parcours dingue puisqu'elle est devenue en l'espace de 3 ans championne du monde de grappling, une technique de lutte au sol très très physique. Aujourd'hui, elle veut former un maximum de femmes au sport de combat, mais pas forcément pour leur apprendre à se battre, en tout cas pas uniquement, mais aussi pour leur donner de la confiance en elles au quotidien. JN raconte son enfance et à quel point l'esprit de compétition a été forgé en elle par la relation avec sa grande sœur. Elle dit d'ailleurs à mon micro des choses qu'elle ne lui a jamais dites en face. Ça promet une chouette discussion entre les deux frangines après l'écoute de cet épisode. Elle raconte aussi son premier lancer de javelot qui lui a valu de battre un record départemental. Bah oui, rien que ça. Et puis, quelques années plus tard, la blessure à l'épaule qui l'immobilisera et la privera de sport pendant 8 ans, l'étoubible l'ayant condamné à tout jamais pour le sport à haut niveau. Mais c'était sans connaître la pugnacité de JN qui bossera pendant des années pour retrouver l'usage de ses épaules avant de se mettre un peu par hasard au sport de combat, même si elle était fascinée depuis le plus jeune âge par ses disciplines et de monter quelques années plus tard sur la plus haute marche d'un podium mondial. On parle aussi pendant cette interview longuement de l'endométriose et de à quel point cette maladie a plombé la carrière de JN par certains aspects, notamment dans la boxe où les variations de poids ont une importance primordiale. J'espère que cette discussion avec JN vous intéressera autant qu'elle m'a passionné. JN gagne vraiment à être connue, mais quelle personnalité géniale, franchement, je vous invite à l'écouter pas plus tard que tout de suite. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est avec JN donc, salut.
Salut.
Ça va?
Ça va très bien, merci, et toi?
Moi je suis super, vraiment, je suis très content de t'avoir. Je t'ai découvert par l'intermédiaire d'une interview qui a été diffusée sur Mademoiselle il y a quelques jours. Et en fait, je me suis dit, il faut à tout prix que j'ai JN dans mon podcast. T'as l'air d'avoir un parcours complètement foufou, quoi. On va parler de ton parcours depuis ta petite enfance jusqu'à aujourd'hui, où t'es passé par une enfance très sportive. Je la fais rapide, mais une enfance très sportive. T'es blessure assez grave qui t'a privé pendant de nombreuses années de sport. Et puis tu t'es mise un peu par hasard à cette discipline qui s'appelle le grappling. On va en reparler un peu après. Et puis en 3 ans, t'es devenue championne du monde comme ça. Alors, j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, tu t'es lancée dans une académie en fait où tu incites les meufs à venir apprendre le sport de combat. Mais je crois aussi que c'est une bonne façon de les entourlouper pour venir en fait leur filer beaucoup de confiance en elles.
Exactement, c'est ça, ouais. C'est okay. Un très bon résumé.
Voilà en gros de tout ce dont on va parler pendant le podcast. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, JN, quand tu avais 7-8 ans?
Ah, alors à 7-8 ans, bon, j'avais à peu près la même tête. Ma mère me forçait à porter des jupes. Des jupes à fleurs. Okay. En plus, très souvent, c'est elle qui cousait nos vêtements à la machine à coudre, parce qu'on était quand même assez nombreux. Et puis, elle aimait bien ça.
Et
j'étais. Alors, ouais. Moi, j'ai deux grands frères. J'ai une grande sœur, deux petites sœurs. Et en plus, ma tante, que je considère comme ma sœur, a grandi avec nous. Donc,
ça fait une famille nombreuse.
Ouais, ça fait une famille nombreuse, ouais. Et bah, à 7-8 ans, j'étais casse-cou, j'étais, moi je grimpais aux arbres, je courais, je sautais n'importe où. Je tombais à vélo, je rentrais voir ma mère, elle me mettait du rouge, je ressortais aussitôt. Moi, j'étais vraiment très active, très casse-cou. Et en même temps, j'avais pas cette envie ou ce besoin de partager avec les autres. Je jouais très souvent toute seule dans mon petit monde imaginaire à moi. Donc j'étais un peu comme ça. Donc tout le monde me qualifiait de garçon manqué. Moi, j'aime pas ce terme parce que... Moi, ça fait un peu... Ouais, on a manqué, on voulait un garçon, on l'a manqué, ça donne ça, ça donne GN. Mais voilà, mais je voulais être un garçon.
Ah, ok, ouais. Donc il y avait quand même un truc pour toi où... Est-ce que c'était compliqué dans ta tête de te dire, bah ok, moi je voudrais être bien comme les garçons, et d'un autre côté, il y a ma mère qui me met des petites jupes.
Alors non, ça parce que...
Parce que les jupes pour grimper aux arbres, c'est chiant quoi, tu vois, vraiment.
Ouais, c'est galère, mais elles étaient à froufrou, donc ça allait... Elles étaient assez larges, on pouvait quand même assez bien bouger, mais en même temps, je voulais être un garçon, mais j'étais plus forte que tous les garçons, donc au final, les garçons pouvaient pas trop me mettre à l'amende, en fait.
Ils te respectaient.
Ouais, on peut dire ça, ouais.
T'avais déjà cet esprit de compète, là, quand t'étais gamine, tu faisais du sport avec eux, tu faisais quoi?
Ouais, alors moi, je crois que l'esprit de compétition, quand on vit dans une famille comme la mienne, on peut que l'avoir. Donc, je l'ai depuis toute petite. Et ouais, c'était la compète. Je me rappelle de l'école primaire. J'avais deux partenaires de classe, Sylvain et Robert. Donc, on était tout le temps fourrés ensemble. On était les sportifs de l'école primaire. Et tous les matins, quand on arrivait, on faisait la course pour savoir qui serait le plus rapide
dans
chaque jour. Quoi.
Dans la cour de récré.
Exactement, ouais.
Okay.
Dans la cour de récré, ouais. Bon, je gagnais souvent. Voilà, je sais pas s'ils m'entendent, mais ouais, je gagnais souvent et moi j'étais la petite fille qu'on retrouvait au centre de la cour. J'allais pas être au coin vers l'entrée des toilettes à jouer à la corde à sauter ou à l'élastique. Ça, je le faisais toute seule chez moi quand j'avais personne avec qui jouer. Mais j'étais au centre de la cour. Je jouais au foot, je faisais la course. J'instaurais mes règles. Moi, quand on faisait des équipes pour jouer au foot, on me choisissait avant tout le monde, par exemple.
Ça te venait d'où, en fait? Tu parlais tout à l'heure de ta famille, t'as deux grands frères, c'est ça?
Ouais.
Ils te mettaient un peu... ils te poussaient un peu au cul, tes frangins?
Non, il y a trop d'écart entre mes frangins et moi, mais non, je crois que c'est parce que... Le fait d'avoir commencé le sport à 5 ans, peut-être, d'avoir commencé les compétitions aussi très très jeune, parce qu'en gym, à 6 ans, tu fais déjà des compètes. Et puis le fait d'avoir été quand même si ma mère m'a toujours mis un peu m'a toujours comparé à ma grande sœur. Voilà. Ma grande sœur était une excellente élève donc elle ramenait tout le temps des bons points. D'ailleurs elle était chiante avec ça, tout le temps excellée partout. Et du coup, il fallait que je trouve un domaine où je pouvais la battre et le sport en faisait partie. Même si ma sœur, elle a été très très forte en sport, elle est aussi prof de PS aujourd'hui. Mais ouais, même si j'ai du mal à l'avouer, quand même, ça a été un modèle pour moi. Il y a toujours cette rivalité là. C'était la préférée, tout ça. Ouais.
Aujourd'hui. Elle a combien d'années plus que toi?
On a 3 ans d'écart.
Ok. Et donc, tu avais un peu ce truc, 3 ans, c'est assez proche et en même temps, c'est assez loin pour te dire, ok, il y a un cap là.
Ouais, exactement. Okay. Ouais. Mais ouais, non, elle était chiante, quoi. Quand je jouais avec elle, elle faisait la maîtresse et elle me faisait faire la dictée, quoi. Et moi, j'étais nulle en orthographe et ça me gonflait, quoi. Parce que c'était toujours la façon de me ramener à, tu vois que t'es nulle. Donc, du coup, bah, je préférais aller jouer dans la cour, quoi.
Ok. Et aller battre Sylvain et Robert, quoi. Ça leur fera
exactement
un peu les pieds, quoi. tu disais aussi que... oui, tu disais que donc, tu t'étais mis à la gym. Comment tu t'es retrouvé à faire de la gym? C'est tes parents, à un moment donné, qui se sont dit « Ok, let's go ».
Ouais, exactement. En fait, moi, je viens d'une toute petite ville qui s'appelle Montchanin, qui est en Saône-et-Loire. Donc, c'est un endroit que personne ne connaît. Et il n'y avait que 3 clubs de sport à l'époque. Il y avait la gym, la natation et le foot. Ouais, c'est ça. Il n'y avait même pas de club d'athlé à l'époque. La pétanque aussi, mais ça, c'était pour les vieux. Et du coup, bah, mon père nous a mis au club de gym. Donc voilà. Mais il a pu tous nous mettre aussi parce qu'il bénéficiait aussi avec le CE de la boîte davantage pour pouvoir nous mettre au sport. Et puis ça donnait un petit peu de temps à ma mère pour souffler quand on n'était pas à la maison, quoi.
Ok, donc c'est là que tu as commencé à développer l'esprit de compète et dès le plus jeune âge, c'est ça?
Exactement, mais en gym, pour être tout à fait honnête, j'étais grave nulle. Mais vraiment, quoi. Je crois que la figure la plus compliquée que j'ai réussi à faire, c'est une souplesse arrière sur la poutre. Dès qu'il fallait partir en salto ou en flip sur la poutre, j'y arrivais pas. Et je voyais ma grande sœur, elle, y arrivait très très bien. Et...
elle est toujours là.
Ouais, elle est, ouais, parce qu'on s'entraînait en même temps en plus. Je me disais, punaise. Et si je la poussais pour m'emmener, je pouvais pas.
tu t'es donc mise à l'athlé un peu plus tard, c'est ça? Mais pas si tard que ça. T'as commencé l'athlé, t'étais toute jeune.
Ouais, j'avais. C'est quand je suis arrivée au lycée. Okay. Donc je crois qu'on a 15-16 ans. Mais pareil, parce que ma sœur en a fait. Donc du coup, mon père voulait bien que j'en fasse aussi. Donc en fait, j'ai un peu suivi à chaque fois les traces de ma sœur. Hein. Donc j'ai été dans le même club qu'elle. Après, moi, je suis allée à Monceau. Elle est allée assez rapidement à Dijon. Parce que la fac au Creusot, ils ont mis un STAPS, mais quand ma sœur a passé le bac, il n'y avait pas encore cette antenne de la fac de Dijon. Donc elle, à 18 ans, elle est partie directement à Dijon, mais moi j'ai rejoint les Ducs de Bourgogne bien plus tard. Donc en gros, je l'ai un petit peu suivi, ouais,
okay.
Sur les sports.
Et quand tu démarres l'athlète, tu démarres au javelot, c'est ça?
Non, j'ai même démarré sur les crosses.
Ah, ok.
Je détestais ça. Les 400 mètres, les 800 mètres, un peu comme ma sœur en fait. À vrai dire, moi dans le club aussi, quoi. Amel, elle était douée pour ça, donc on va te mettre aussi à ça.
Et donc, en Amel, fait, c'est ta sœur, c'est
ouais,
ça.
Amel, c'est ma grande sœur.
Coucou Amel.
Et en fait, là, elle était bien plus douée que moi, là encore. Et le truc, c'est que moi, j'ai grandi d'un coup. J'ai grandi d'un coup et j'ai développé ce qu'on appelle la maladie de Scheuermann. Donc, c'est des petites taches nucléaires qui se mettent sur qu'on voit en fait au niveau des radios sur les articulations quand un enfant a grandi trop vite. Donc, du coup, j'avais très souvent mal au dos. Et en plus, il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais très anémiée. Moi, je faisais des prises de sang tous les mois pour voir où j'en étais. On m'appelait cachet d'aspirine. Moi, ouais, j'avais des frères sympas, des frères et sœurs très
super
sympas. et du coup, le 400 mètres, ça a commencé un petit peu à me fatiguer. Et on m'a mis un jour, donc il y avait les interclubs, et on m'a mis au javelot parce que moi, le 400 était terminé. Et donc, je pouvais faire une deuxième épreuve. Et comme tous les autres n'avaient pas fait encore leur épreuve, on m'a dit, vas-y, prends le javelot. Et voilà, j'ai lancé avec toute la douceur que les gens qui me connaissent peuvent reconnaître en moi, c'est-à-dire zéro. J'ai attrapé le truc, je l'ai balancé et j'ai battu le record de Bourgogne ce jour-là. Et donc je me suis dit, le javelot, c'est pour moi, quoi.
Attends, donc c'est ton premier lancer de javelot de tous les temps, ouais. Et tu bats le record du département, quoi.
C'est ça.
Ok.
Bon, j'ai pris ça comme un signe.
Oui, c'est ça. À des aptitudes.
Exactement, oui.
Ok. Donc, tu te lances dans... J'imagine que de ce fait-là, tu te dis, bon, ok, j'ai trouvé mon truc.
Ouais.
Et où tu peux, en plus, exceller dans la compète, etc. Parce que tu gagnes direct, tu bats un record. Donc, j'imagine que pour toi, ça doit... Ding, 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 ding.
Ah ouais, non, c'était... ouais, c'était plutôt chouette. Et puis, c'était moins fatigant que le 400 mètres. On va pas se... le cacher. Et du coup, ouais, j'ai continué, j'ai changé de club. Je suis allée dans un club où il y avait de meilleurs entraîneurs et notamment une meilleure formation au niveau des lancers. Et voilà, et c'est là que j'ai développé un petit peu plus. Alors moi, j'ai toujours été physiquement très très forte. Moi, j'ai toujours été hors norme en termes de puissance et de physique, malgré le fait que moi, jusqu'à 15-16 ans, je faisais à peine 40 kilos, quoi. Mais physiquement, j'avais une puissance qui était hors norme.
Qui vient d'où? La nature?
Ouais, je pense que ça vient de l'ADN. Du côté de mes parents, je sais que du côté de mon père, ils sont tous très grands, très forts physiquement. Donc je pense que ça vient de là, parce que du côté de ma mère, ils sont plutôt très petits. Et du coup, ça m'a permis d'exceller encore plus... Dans le lancer de javelot, en tout cas. Donc voilà.
Ok. Comment ça se passe? C'est quoi la suite? Alors tu te lances dans cette... Tu te lances vraiment dans l'athlé à fond, c'est ça? Pendant plusieurs années?
Ouais, je me lance dans l'athlé à fond jusqu'à ce que je me fasse opérer en 2004. Donc ça a été à la base. Moi, si j'avais, si je m'étais dit que j'aurais un titre aussi glorieux dans un sport, je pensais vraiment que ce serait en athlé et pas en boxe, pas en MMA ou en grappling. Donc c'était pour moi, c'était moi, je m'étais mis dedans corps et âme, quoi. Je m'entraînais tous les soirs. C'était.
Et tu avais un parcours adapté dans tes études. Tu t'étais déjà mis en tête de devenir prof de sport à l'époque. Ça rentrait dans ton parcours, c'est ça?
Ouais, mais en fait, j'entraîne depuis que je suis coach, depuis que j'ai 15-16 ans. Parce qu'en gym, j'ai arrêté tôt, mais par contre, j'ai entraîné.
Okay.
Et j'ai formé plusieurs équipes de petites poussines que je formais et que je montais à un très très haut niveau et qu'après le club continuait de former quand elles passaient minime ou cadette.
Donc ça veut dire que t'étais pas bonne en gym, mais qu'en revanche, t'étais super forte en tant qu'entraîneuse, quoi.
Voilà.
Okay.
C'est bien dit comme ça, je me sens un petit peu mieux. Non, gym, j'étais une catastrophe. Mais ouais, j'ai toujours eu cette capacité à aider les autres à bien apprendre et à bien progresser au point de vue sportif et personnel aussi.
Mais c'est intéressant. Ça veut dire que de ce fait-là, tu les entraînais à devenir potentiellement meilleurs que toi, même, parce que tu disais que c'était dur et que apparemment les gamines que t'entraînais, elles étaient fortes.
Ouais.
Donc tu les entraînais très vite à devenir meilleures que toi.
C'est ça. Alors, j'avais jamais vu ça sous cet angle, mais ouais, exactement.
C'est dur à faire, tu vois. C'est-à-dire que tu leur apprends à faire un truc que tu sais pas faire.
Ouais, et en fait, je me rends compte dans mon parcours que c'est ce que j'ai toujours fait, parce que quand je reprends mes premières années où je suis prof et que j'arrive à Mantes-la-Jolie et que je crée des sections boxe anglaise et boxe française, alors que la boxe anglaise, j'ai jamais pratiqué, la boxe française, j'en ai fait un an. Et j'ai formé, je pense, une dizaine de gamins qui sont devenus champions de France UNSS.
Mais pourquoi t'as envie de créer une section boxe anglaise, boxe française, alors que ça t'intéresse pas trop?
Bah en fait, non, la boxe m'a toujours intéressée. Mais voilà, bon, on me demande de créer... Non, je pratiquais pas, de toute façon je pouvais pas pratiquer. On me demande de créer une section UNSS. Moi, ouais, j'avais pas envie de faire... Moi, je suis en ZEP, je suis à Mantes-la-Jolie. Moi, j'ai pas envie... Le foot, c'est pris. Donc voilà, après... Je réfléchis un peu à ce que je peux faire et la boxe, ça me semblait une activité qui était en adéquation avec la population. Parce que je le voyais vraiment comme quelque chose qui allait leur apporter de la confiance en soi, du dépassement de soi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu cette capacité à former les autres.
Mais attends, à l'époque, en plus, tu pratiquais pas encore?
Non.
Ok, donc t'avais déjà projeté les bienfaits de la boxe ou du sport de combat alors que t'en avais jamais pratiqué, quoi.
Ouais, parce que dans mon imaginaire, être combattant, c'était génial, quoi.
Comme Rocky.
Exactement, Rocky, Bruce Lee, Jackie Chan. J'ai toujours été émerveillée, en fait, par les sports de combat, mais vraiment depuis toute petite. Moi, je regardais des combats de sumo et de lutte sénégalaise avec mon père, quoi.
Okay.
Je suis pas sûre que toutes les petites filles de 8-10 ans
ont
les faits. Et quand j'ai fait les championnats du monde de grappling, il y a l'équipe de... Alors, c'était de la... L'équipe de France de lutte mongole qui m'avait contactée pour me dire « Voilà, on est en galère, il nous manque une fille à 70 kilos. Est-ce que tu veux venir faire les championnats de lutte mongole avec nous ?» Mais moi, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit « Bah oui, bien sûr que je veux !» Parce que je voyais le truc bagarre, tout ça. Bon, après, ça s'est pas fait, mais je me suis dit « Ah ouais, on est venu me chercher pour de la lutte mongole. » La lutte mongole, j'ai jamais vu, mais ça doit être pas mal. J'aimerais bien essayer, je me suis renseignée. Donc, c'est un truc avec une ceinture un peu comme les sumo où on peut saisir et il faut projeter. Et je me suis dit « Ouais, ça peut être chouette. »
C'est dans tes cordes. C'est à peu près ce que ouais. Tu étais capable de faire.
Je crois. Mais je crois que demain, on vient me voir en me disant « Faut aller faire du taekwondo ou machin. » Je dis « Oui, quoi. Oui ?» Après, peut-être que je commence à réfléchir un peu.
Mais, alors, c'est marrant que de ce fait-là, tu sois allé vers l'athlé. Ah oui, si, j'ai entendu dans une interview où ton père disait qu'il ne voulait pas que tu fasses un sport de combat.
Non, il ne voulait pas, ouais. Il m'a dit « Tu feras de la boxe quand tu partiras de la maison. »
Ok.
Et j'ai découvert la boxe.
C'était pas saoulé, ça ?
En même temps, il n'y avait pas de club.
Ouais, ok.
Donc en même temps, il n'y avait pas de club de boxe vers chez moi. Donc bon, il n'y en avait qu'un seul, c'était à Monceau et il n'y avait pas de bus pour y aller. Quand je dis j'habitais la campagne, j'habitais la campagne, quoi. Et puis non, dans l'athlétisme, je m'épanouissais, donc ça me convenait. Et je pense qu'au fond de moi, je savais qu'un jour, j'allais aller sur les sports de combat. Donc j'attendais patiemment de quitter le foyer. Ouais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Et pourquoi ton père, il voulait pas que tu fasses un sport? Parce que c'est intéressant, j'imagine, aussi par rapport à ton académie aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des freins au sein même de la famille, alors que ton père t'a quand même... Enfin, moi, j'ai envie de lui dire, c'est pas très cool. Tu fous ta gamine devant des matchs, des combats quand elle est gamine, tu vois. Et en fait, à un moment donné, quand elle se dit, bah tiens, j'aimerais bien y aller, tu lui dis, bah non, c'est pas possible quand tu seras partie, quoi, tu vois.
Ouais, mais je pense qu'il...
Bonjour le papa de JLC, si vous nous écoutez, coucou.
Mais je pense qu'il réalisait pas, lui, en fait, ouais. Tout ça. C'est lui qui m'a donné le goût au sport, en fait. Moi, les meilleurs souvenirs sportifs que j'ai, c'est mon père qui nous emmenait à la piscine pour nous apprendre à nager. C'est mon père qui nous emmenait faire des balades en VTT. C'est mon père qui m'emmenait en compète d'athlée. Donc, on avait un J9, donc il prenait toute l'équipe. Il nous emmenait en compète, en cross, machin. Et il passait l'après-midi avec nous. Donc, c'était logique pour moi de faire du sport parce que c'est là où j'ai construit mes meilleurs souvenirs, en fait. Mais je crois que lui, il réalisait pas, quoi, quand... En fait, il réalisait pas ce qui se passait dans ma tête quand je regardais les combos de Bruce Lee. Je me disais, waouh, comment ça a l'air génial! Je suis sûre que je peux le faire! Mais ouais, tout ça, c'est de sa faute, je pense.
C'est à cause de lui, et peut-être même que tu aurais eu une carrière peut-être même encore plus folle dans les sports de combat si tu avais. Enfin, ceci dit, il n'y avait pas de club, comme tu disais. T'étais...
Ouais, il n'y avait pas de club, et si j'avais pu commencer le MMA plus tôt, parce que moi j'ai commencé à 33 ans, 34 ans.
Non, on va en parler.
Je pense que j'aurais pu être une Ronda Rousey version française, ouais.
J'ai pas la ref, hein, donc c'est qui?
Ronda Rousey, bah, c'est la première star de l'UFC okay. Qui venait du judo, sale caractère, qui parlait à personne, qui insultait tout le monde. J'aurais pu être elle. Bon, sans le... Bon, si, avec le sale caractère, quand même.
T'as pas l'air d'avoir un sale caractère, hein.
Non, 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 mais...
Bah, t'es déter, tu sais ce que tu veux, quoi. Faut pas t'emmerder, j'imagine, quand t'as un objectif en tête, quoi.
Voilà, quand j'ai un objectif en tête, ouais. Mais après, pour le reste, moi, je suis quelqu'un d'hyper... je me suis jamais battu de ma vie, jamais chamaillé dans la rue ou battu avec quelqu'un, ou... Ça a jamais été...
Peut-être aussi qu'il y a un truc où on vient pas te chercher des crosses, vu la confiance que tu dégages, tu vois.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ça, c'est vrai. Aussi parce que j'ai appris très, très jeune à me détacher, en fait, de ces violences-là. Je sais qu'un jour, je suis rentrée de chez moi en colère en disant à mon père « Ouais, machin, lui, je vais le taper. » Il me dit « Mais pourquoi tu vas le taper ?» Ouais, il m'a dit « On a le droit de dire des gros mots. »
Oh oui. Alors là, t'es sur mon podcast, je suis le gars qui dit le plus de gros mots au monde.
Et il m'a dit « Ouais, il m'a dit... » Et je lui ai dit « Il m'a dit ta mère la pute. » Il me dit « Tu veux le taper pour ça ?» Je lui ai dit « Bah ouais, quand même. » Il me dit « Mais tu connais ta mère ?» Je lui ai dit « Bah oui. » Il me dit « Est-ce que ta mère, c'est une pute ?» Bah non, bah alors pourquoi tu te prends la tête? Il me dit laisse parler les gens. Et ce jour-là, j'ai compris, en fait, que ouais, il a raison. En fait, le mec, je l'ai laissé parler, ça l'a énervé et il s'est étouffé tout seul, quoi. Mais ouais, non, j'ai jamais été violente. Moi, si, j'ai mis une fois une tarte et j'ai regretté. Mais j'ai jamais été très violente. Donc les gens, quand ils me retrouvent dans ce milieu-là, ils sont un peu surpris de se dire mais quand on te connaît, voilà, t'es pas. Bon, comme si les sports de combat étaient faits que pour les gens violents, ouais, ouais. Qui aiment se chiffonner. Ouais. Alors que pas du tout.
bah, faut quand même avoir un état d'esprit où faut accepter de prendre des mandales dans la gueule et bon après d'en donner en retour quoi, tu vois. Donc c'est pas anodin comme
Non, c'est pas anodin, c'est de bonne guerre. Et puis quand on est à l'entraînement, c'est un peu un jeu quoi. Moi, les gens qui viennent me voir à la Hatch Academy, là, quand je délire avec très souvent, je fais des sparring avec Fabakary Diatta qui combat au Bellator et à qui je fais la prépa physique. Bah, on se marre en fait.
Voilà, c'est des mandales pour rire.
Ouais, mais il y a pas. En fait, ce qui compte, c'est de ne pas avoir l'intention de faire mal. Voilà, c'est l'intention de.
C'est toujours l'intention qui compte.
Voilà. Quand il y a une mauvaise intention derrière, c'est pas cool. Mais quand il n'y a pas la mauvaise intention, c'est plutôt marrant. Ouais.
Ok. Pour revenir à ton parcours, tu te blesses donc de façon dramatique pour toi. Donc, quand tu fais du javelot, c'est ça, à l'époque?
Ouais. Donc, j'étais à Dijon, j'étais à la fac. En fait, c'est même pas une blessure, c'est que j'ai une douleur qui est là depuis toujours. Qui me gêne depuis que je commence à performer dans le lancer. Bon, après, il faut dire aussi que techniquement, mon geste n'était pas... c'était pas le geste le plus parfait qui puisse exister. J'avais quand même cette fâcheuse tendance à avoir l'épaule qui passait un petit peu à côté du... ce qu'on appelle le temps d'épaule, donc à vraiment très, trop forcer dessus. Et j'ai cette douleur...
Tout en douceur, donc.
Ouais, tout en douceur, toujours. Et j'ai cette douleur qui me gêne de plus en plus et je vais voir un chirurgien qui me dit que j'ai le bourrelet qui est fissuré. Donc le bourrelet, c'est un peu l'équivalent du ménisque dans le genou et ça se trouve dans l'épaule. Donc il me programme une opération en me disant bah, on va opérer et après ça ira mieux. C'est un truc qui se fait très bien, sachant que ça faisait déjà 2-3 ans qu'on essayait de voir comment arranger le truc sans opérer. Et je passe le capet, c'est à peine 10 jours après, on me perd de l'épaule. Et en fait, quand il ouvre, il se rend compte que mon bourrelet n'est pas du tout fissuré, mais que j'ai quasiment pas de bourrelet dans l'épaule. Donc ça veut dire que d'un point de vue anatomique, il me manque...
Un truc.
Ouais, il me manque un truc et en fait, je l'ai des deux côtés. Et ce manque de bourrelet, ça a fait que les os se frottaient en permanence. Ça me perforait tous les tendons qui étaient au niveau de la coiffe des rotateurs. Et c'était juste une douleur qui était horrible. Donc on me rabote les os pour qu'il y ait un petit peu plus de place.
Cool.
Ouais, ça c'est cool. Et on me fait une ligamoplastie pour essayer de résorber un peu tous les trous quoi. Et le verdict quand je me réveille, parce qu'au départ c'était une opération qui devait se faire en anesthésie locale. Et quand j'ai commencé à voir les images et le sang, j'ai dit au médecin, là je vais vomir, là il faut m'endormir parce que je vais pas supporter le truc. Et quand je me réveille, il m'annonce que je pourrais plus jamais faire de sport de haut niveau de ma vie, que mon corps il est pas fait pour ça et qu'il faut que j'arrête.
Waouh.
Donc voilà.
Bah, belle plantade, j'ai envie de dire, mais j'imagine que eux de leur côté, ils se disent que c'est pour ton bien, quoi.
Ouais. Ils se disent que c'est pour mon bien et pendant 8 ans, il a eu raison. Je pouvais plus rien faire, ouais.
Comment ça se passe ces 8 ans sans sport? Tu deviens prof, donc j'imagine.
Ouais.
C'est ça.
Donc j'ai le CAPES, donc j'ai toujours ce pied dans le sport. J'enseigne toujours. J'ai mes petites sections UNSS. On va dire que pendant 5-6 ans, j'ai pas trop ressenti le manque. Et arrivé un moment, moi j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce quelque chose, c'était la pratique physique. Et je l'ai redécouvert quand je suis arrivée à Sartrouville et que j'ai commencé à m'amuser avec mes élèves. Moi, je suis une prof qui a un côté relationnel assez sympa avec mes élèves quand ça se passe bien dans mes cours. Donc, il y a toujours un cadre très, très strict. Mais à l'intérieur, il y a quand même la possibilité de bien s'éclater. Et j'avais une classe où j'avais, mais je crois, 4 basketteurs, dont 2 qui faisaient plus d'1m95. Et je jouais au basket avec eux. Et je lançais des défis et machin. Et je perdais tout le temps. Hein. Ils se foutaient de ma gueule. Ils prenaient la balle en l'air. Ils me disaient, venez la chercher, madame Abdelila. Moi, je ne pouvais pas l'attraper. Et mes collègues qui venaient voir ce qui se passait dans le gymnase trouvaient ça mais aberrant quoi. Comment une prof peut
jouer avec
ouais c'est ça moi j'aurais son niveau je ferais jamais ça, mais en fait ce que t'as pas compris c'est qu'en faisant ça je construis autre chose avec mes élèves. En fait je suis pas dans la performance et c'est là que j'ai commencé à me dire mais en fait c'est ça qui me manque, C'est ça qui manque. Donc j'ai repris, je crois que je me suis mise au golf un petit peu parce que c'était le bon côté par rapport au swing, ça me dérangeait pas trop. Le fait de jouer avec mes étudiants au basket, au foot, et puis de reprendre du plaisir. Parce qu'avant, j'étais uniquement dans la performance. Moi, j'étais capable, on jouait au tennis, ça se passait mal, je te jetais ma raquette à la figure.
Et... Genre le dimanche matin, tranquille, c'est
tout
ça c'est
pépère.
Ça.
Tout va bien, on
la
va faire un tennis.
Je joue pas.
Paf.
Après, je te comprends, moi, je joue pour gagner. Hein. Donc, je voilà. suis pareil, quoi. C'est, je peux pas jouer à un jeu de société si c'est pas pour.
Ouais, tu alors vois. Ça, moi, j'ai appris.
Bah oui, avec que... le temps.
Ouais, et aussi parce que je pouvais plus. Je oui, pouvais plus avec mon corps, je pouvais plus prétendre et dire j'ai gagné. Donc je chambre beaucoup, je vais te pousser un petit peu dans grâce au fait de te chambrer pas mal et de lancer des paris. Mais je vais lancer des paris que je sais que je vais perdre. Hein. Mais ça me fait plaisir. Et du coup, j'ai repris plaisir et j'ai trouvé en fait le vrai plaisir du sport que je n'avais pas avant parce que j'étais uniquement centrée sur la performance, réussir, les championnats de France, les trucs. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, en fait, il faut que je reprenne le sport, quoi.
Comment tu fais pour te remettre au sport alors que tu as les toubibs qui t'ont dit quelques années auparavant, bah, faut plus en faire, quoi.
Bah, en fait, j'ai cette douleur qui revient. Je suis obligée de monter un dossier de travailleur handicapé. Donc j'ai rendez-vous à la MDPH à Versailles avec le médecin du rectorat, la Cotorep, etc. pour faire mon dossier. Et je me rappelle de ce jour où j'arrive à Versailles à la MDPH et je suis dans la salle et je me mets à pleurer en fait. Et je me dis mais merde en fait, je suis arrivée à un point où là aujourd'hui je suis considérée comme handicapée à plus de 25%. Et c'est pas possible. Ça peut pas le faire. Je reprends des séances de kiné, je cherche un kiné autour de chez moi et là je tombe sur un super kiné, pas très loin de chez moi. Et on a commencé un gros travail. Et en fait, ce qui était bien avec lui, c'est que c'était. C'est un mec qui avait une formation particulière. Il avait passé. Je crois qu'il avait passé un bac pro maçonnerie. Parce que les profs avaient estimé que venant de tel quartier, en étant de telle origine, et
ouais.
la et maçonnerie, cette... voilà.
voilà quoi.
Donc tu deviendrais maçon, et du jour au lendemain, il s'est dit, mais en fait, moi, c'est pas ça que je veux faire, je veux être kiné. Donc, donc il est parti, voilà, il a
grand
mis
écart,
de côté,
et
ouais, il a économisé, il est parti se payer une école en Belgique, et il est revenu kiné. Et en fait, il avait ce mindset de dire... on s'en fout de ce qu'on t'a dit. Tu vas voir, on va y arriver, en fait. Ça va faire mal, ça va être douloureux. On va forcer, écoute pas. Et il a eu raison. Et à côté de ça, moi, je faisais des séances de crossfit à la maison. C'était les débuts des crossfit, ouais. du crossfit. Donc, je m'étais acheté... moi, je m'étais pas acheté. J'avais emprunté une barre de body pump au lycée que je n'ai jamais rendue, pardon. Et je faisais ma rééducation comme ça, chez moi, à la maison. Et ça, bah, ça a marché.
Comment tu as réussi à compenser, justement, bah, tu disais tout à l'heure, il te manquait ce bourrelet dans chacune de tes épaules en plus, c'est ça?
Ouais.
Comment ton corps, comment tu as réussi à remplacer ce truc-là? Parce que c'est quand même important, j'imagine.
Ouais, c'est important. Après, je pense que le fait que les ligaments soient ressoudés, le fait qu'on ait raboté aussi les os, ça m'a permis, ça a dû quand même un petit peu soulager. Et après, il a fallu que je travaille. Que j'apprenne à mobiliser mon épaule de manière à ce qu'elle soit plus douloureuse, donc à la rabaisser, à la tirer vers l'arrière et ensuite à travailler sur tous les muscles fixateurs autour de cette épaule. Et bon, ça a été un gros travail parce qu'en fait, à chaque fois qu'on avançait, ça revenait en arrière parce que mon épaule se remettait toujours en protection. Elle revenait toujours vers l'avant en protection. Dès qu'on la remettait, ça revenait et c'était ça a été long. Hein. C'est parce que là j'en parle comme ça, mais ce travail-là qu'on a fait avec le kiné, ça a duré plus de 2 ans et demi. Sachant qu'avant, moi après l'opération, j'étais suivie aussi par les kinés qui géraient le Krebs à Dijon et pareil, ça a été long. Après, je pense aussi que le fait d'avoir un traitement hormonal qui est très lourd aussi a fait que ma constitution musculaire a changé. Donc avant, j'étais très massive, très physique. Moi, j'ai eu un taux de testostérone très, très élevé jusqu'à mes 17 ans. Mes premières règles, je les ai eues à 17-18 ans. Tout de suite après, on m'a donné un gros traitement par rapport à mes douleurs. Donc aujourd'hui, on sait que c'est de l'endométriose. Et fort heureusement, on m'a tout stoppé très très jeune. Alors certes, en faisant croire à mon corps que je suis en préménopause, mais physiquement, en fait, mon corps aussi a appris à changer. Et je suis passée d'un corps très, très musculeux, très massif, très... Moi, j'avais un peu le physique à la Caster Semenya quand j'étais jeune.
C'est pareil, je ne sais pas qui c'est, pardon.
À la coureuse de 800 mètres.
Ah, okay.
Voilà, qu'aujourd'hui, la Fédé internationale d'athlètes refuse de faire courir parce qu'on dit qu'elle ressemble trop à un homme.
Ah, c'est... Ok, d'accord.
Voilà, la sud-africaine.
Je l'ai. Ok.
Exactement.
Complètement dingue.
C'est ça. Et en plus, à cette époque, à la fac, moi, j'avais les cheveux courts. Donc, très souvent, quand je rentrais dans un endroit, on m'appelait monsieur. Mais j'avais les cheveux très, très courts à la Diams. Bon, ça m'allait mieux qu'à Diams. Pardon,
Mélanie,
Diams.
Si tu nous écoutes.
Et je pense que ça aussi, ça a changé. Parce qu'avant, un kiné, pour me masser, il fallait me mettre pendant 20 minutes sous une lampe chaude pour que mes muscles se détendent et pouvoir travailler dessus. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et même moi, je vois mon corps changer. Là, musculairement, j'arrive pas à récupérer... ce physique, cette force, ce gabarit, parce que j'ai trop d'hormones, on m'a trop injecté d'hormones femelles, entre guillemets, et du coup, j'ai le corps, le corps d'une vraie femme à la Betty Boop.
on en reparlera si tu veux un peu après, mais je crois que ce traitement hormonal a eu une grosse influence sur ta carrière de sportive après, notamment en boxe, où tu dois atteindre des paliers de poids et c'est compliqué, quoi, j'imagine.
Ouais, c'est très compliqué parce que les gens te disent ouais, « ça va, c'est facile de perdre du poids, t'exagères JN, descends dans la caté d'en dessous ». Mais en fait, moi, je peux pas descendre. Je mange clean toute l'année. Je suis obligée de me restreindre de fou. Moi, quand on regarde le nombre de calories que je brûle par jour... C'est pas du tout en adéquation avec le poids que je peux faire et le nombre de calories que je vais manger, par exemple. Et quand je leur dis, mais non, moi, c'est pas possible parce que c'est du poids qui est hormonal, c'est pas du poids. Et ouais, ça m'a mis dans des galères. Je crois que les deux trucs, les pires que j'ai vécu, ça a été le championnat d'Europe en Sicile où j'ai dû aller. Donc, je pars de Paris, je suis au poids. On a une escale à Rome, après on prend un autre avion, j'arrive en Sicile, je suis à plus d'un kilo, alors que moi j'ai pas mangé le midi et je voyais tous les gars de l'équipe de France, pizzeria au milieu de Rome et tout, j'avais juste envie de planter des gens, moi je peux pas manger. Le soir j'ai mangé juste une soupe et le matin j'ai pas déjeuné pour être à la pesée et j'ai plus d'un kilo. Et tu dis ouais c'est bon, les galères elles commencent et tu pars courir avec ton coach, les mecs qui sont pas au poids. Et je crois que c'est Cédric Akapovic qui avait 1,5 kg à perdre. Nicolas Blumenthal aussi. Moi, j'avais 800 grammes. Les mecs, ils ont perdu en 20-25 minutes. Et moi, ça faisait une heure que je courais. J'arrivais pas à perdre. Donc, c'était catastrophique. Et le 100% fight, donc le combat selon les règles du Pancras à Paris...
C'est quoi le pancras ? Je suis désolé.
En fait, comme le MMA était interdit en France, oui. On combattait avec les règles du pancras. Donc, il y a tout sauf les frappes au sol.
Ok.
Voilà. Et ça se passe malheureusement dans un ring, ce qui peut être très dangereux avec les projections.
Ouais. Par rapport à une cage, tu sais, il y a plein de profanes qui vont écouter. Moi, je suis un tout petit peu, mais vraiment.
En fait, la
dans le
cage,
MMA, il y a une cage, c'est ça.
Voilà, c'est un octogone grillagé.
Le fameux octogone.
C'est ça, de Booba et Karis. Et en fait, cet octogone-là, contrairement à ce qu'a pu dire la fédération de judo et toutes les personnes un petit peu en France qui étaient contre ce sport, ça permet de protéger les combattants parce que quand t'es dans la cage et qu'on te projette, donc il faut imaginer, par exemple, un David Douillet faire une projection en judo sur un mec au milieu d'un ring. S'il est proche des cordes, le mec, il va passer par-dessus. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Et en France, ça arrivait, notamment sur le 100% fight, ça arrivait plusieurs fois. Et les mecs peuvent se blesser, quoi.
Pour le coup, c'est
un ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un octogone. Et du coup, pour en revenir au 100% fight, donc je combats au 100% fight, c'est au mois de juin. C'est le ramadan. Donc je me lève le matin, je suis au poids. Donc c'était les derniers jours de cours à mon lycée à Sartrouville. Donc ça veut dire que je bosse toute la journée, donc je me dépense. J'arrive à la peser plus de kilos.
Mais enfin.
Et là je pète les plombs et je me dis mais c'est pas possible quoi. Et mon coach lui dit mais je peux pas quoi. Et donc c'est le ramadan,
Oui, tu peux pas faire. Enfin, tu peux pas faire plus.
Non, je peux pas faire
ou
plus
faire
en
moins,
fait.
Pour le
et, et en fait, c'est avec les hormones, c'est comme ça, quoi. Tu sais pas comment ça se régule. Moi, j'ai toujours des écarts de poids du jour au lendemain qui peuvent être de 3 kilos. Et je me revois dans le sauna en kawaii. Mais je crois que j'ai fait et je perdais pas. Je pétais les plombs et je disais à mon coach, je perds pas. Comment on fait? Et moi, j'avais pas pris de change, tu vois. Je suis partie le matin, j'étais au poids, donc je me suis pas posé la question. Et j'arrive là-bas, je suis pas au poids, sauna. Et les gens à la pesée, ils se sont dit, mais la meuf demain, elle va tomber dans le ring, c'est un cadavre. Elle est toute blanche, elle est toute. En plus, j'avais une adversaire qui faisait 1m85. On aurait dit Laurel et Hardy. Et le poids, c'est compliqué, ouais. C'est vraiment très, très dur. Et ce qui est très, très dur aussi, c'est de me dire que je suis frustrée H24 parce que si je mange comme je voudrais, bon, je serais obèse.
À cause de ton traitement hormonal, donc, mais tu as eu cette chance, entre guillemets, qu'on t'a détecté l'endométriose assez rapidement parce que tu as des femmes qui vivent toute leur vie avec ça. Parce que je crois que c'est un sujet dont tu veux parler en plus.
Ouais.
Parce que c'est en train de. On est en train d'en parler de plus en plus de l'endométriose et c'est une bonne chose. Hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traitement magique pour soigner ça. Quoi.
Non, il n'y a pas de traitement pour la simple et bonne raison qu'il y a différents. En fait, chaque cas d'endométriose est différent. Voilà. Et du coup, deux femmes qui ont de l'endométriose, ça ne va pas s'exprimer de la même façon au niveau du corps et on ne va pas avoir les mêmes réactions. Ouais, en fait, les gens qui n'ont pas cette maladie peuvent pas comprendre en fait l'état dans lequel on est. Moi, je me revois au CAPES à Vichy, aux Oraux, par terre devant une pharmacie, au sol en train de chialer parce que j'ai trop mal et parce que j'ai mon examen et parce que je suis en plein CAPES. Moi, je peux pas rater ma vie à cause de ça. Je me revois me garer sur des aires d'autoroute, appeler mon père et lui dire je ne peux plus conduire. Il faut venir me chercher et déjà, dans la culture maghrébine, c'est assez tabou. Quand je dis à mon père qu'il faut venir me chercher, je lui dis pas que c'est parce que j'ai mes règles et que j'ai mal au ventre. Je lui dis que je suis malade et j'arrive plus à conduire. Et en fait, on a l'impression que notre corps, il nous rejette. Tu te dis, mais ce corps-là, et pourquoi il me fait ça? Après, la chance que j'ai eue, moi, c'est que comme on m'a stoppé mes règles très très tôt, l'endométriose, elle a pas eu le temps de se propager en fait dans mon corps et de remonter jusqu'aux organes qui peuvent être touchés. Mais en fait, c'est une maladie silencieuse parce qu'on n'en parle pas. C'est un cancer, mais c'est un cancer qui ne tue pas. Et en plus, ça touche que les femmes. Je suis persuadée que si le président de la République avait ce genre de problème une fois par mois, on aurait trouvé une solution bien plus rapidement.
On n'est même pas obligé de me remonter jusqu'au président de la République. Hein, si tu veux déjà
ouais, c'était pour avoir un exemple marquant.
Mais ne serait-ce que je crois que si ça touchait les mecs de base, à mon avis, il y aurait eu de l'argent investi depuis beaucoup plus longtemps dans la recherche, etc. Quoi.
Ça, j'en suis persuadée. Et après, il y a une autre réalité aussi, c'est que ça, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte au niveau professionnel. C'est pas pris en compte au niveau du sport. Le sport, ça a été inventé par les mecs pour les mecs. Les préparateurs physiques sont des mecs, les présidents de fédé sont des mecs, les DTN sont des mecs, même si c'est en train de changer aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est pas pris en compte. La preuve, les sportives françaises qui mettent un thème à leur carrière parce qu'elles veulent avoir des enfants. C'est soit t'as un enfant, soit tu continues de jouer. Mais pourquoi on pourrait pas faire les deux, en fait? C'est compliqué, c'est en train de changer. Je trouve ça très très bien. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent aujourd'hui. Je trouve ça chouette. J'ai vu passer des posts aujourd'hui sur LinkedIn avec des chefs d'entreprise qui ont mis en place 3 jours pour les femmes qui avaient des règles douloureuses où elles pouvaient rester à la maison et ça n'allait pas être pris de leur salaire, ce genre de choses. Donc
C'est en train de bouger petit à petit.
Voilà, c'est en train de bouger. Mais
ça vient du privé, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est qu'à un moment donné, c'est les patrons eux-mêmes qui décident. Et puis, il faut qu'ils soient ouverts à cette idée, quoi, tu vois, en plus.
Mais en fait, moi, dans ma construction avec cette endométriose, pendant très longtemps, moi, on m'a juste dit, c'est des règles douloureuses, t'es fragile. Et c'était le discours que j'avais avec mes étudiantes. Quand j'arrivais à Mantes-la-Jolie, en leur disant, si vous avez. Moi, je veux pas entendre parler de. Je fais pas sport parce que j'ai mes règles. Parce que bah, y a des solutions qui existent, il suffit de trouver un traitement, mais c'est qu'après, aujourd'hui, je regrette ce discours que j'ai pu tenir avec les jeunes filles, parce que on m'a poussé en fait dans ce truc-là de se dire c'est ta faute, en gros t'as mal, c'est ta faute quoi, c'est toi, t'es douillette, t'es machin, c'est bon, toutes les femmes ont leurs règles, c'est pas la fin du monde. Mais aujourd'hui, ouais non, je peux vous dire que c'est cette douleur-là, c'est la fin du monde. Moi, j'ai plus mal à cause de cette endométriose, parce que il y a pas que pendant les règles. Donc certes, aujourd'hui, j'ai plus mes règles, donc j'ai une partie de cette douleur qui n'est plus là, mais il y a plein d'autres moments dans la journée ou dans ma vie qui vont me rappeler que c'est là, en fait, et que c'est douloureux. Mais c'est plus douloureux pour moi à accepter, c'est plus douloureux aussi à vivre que quand on m'opère de l'épaule ou quand je me fracture le dos. C'est pas du tout la même chose, en fait, parce que quand je me blesse à l'épaule ou quand on me fracture le dos, je sais ce que c'est, en fait. Oui. Alors que là, c'est mon corps.
Là, ça fait partie de toi, ouais. Quoi, c'est ça.
Mmh. Et c'est pas top. Je pense que j'ai pourri l'ambiance, là.
Mais non, bah, en fait, non, mais c'est cool, c'est cool que t'en parles, en fait, parce que je crois que c'est un vrai tabou, hein, ouais. Qui commence à sortir petit à petit du bois, mais parce que aussi il y a eu tout un travail qui a été fait autour des règles, de tous les aspects de menstruel, etc., qui sont en train de se libérer, le fameux liquide bleu dans les pubs, là, tu sais,
oui.
Alors que bah en fait c'est juste du sang et c'est pas très grave, et je suis content en fait. La parole puisse se libérer aussi autour de cette maladie, parce que c'est en parlant qu'on va finir par faire prendre conscience à tout le monde, quoi, tu vois. Et là, comme tu dis, effectivement, il y a des patrons qui commencent à venir dire, X jours par mois, vous pouvez être chez vous et vous allonger tranquille. C'est plutôt bien, quoi. Donc c'est bien d'en parler.
Ouais, c'est bien. On est en train d'arrêter de diaboliser ça, quoi. Parce qu'il y a toujours ce côté un peu. J'ai l'impression qu'on est. Qu'on est encore dans les années 80. Bon, quand je dis 80, c'est 1480, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est diaboliser la femme sorcière, la femme de tous les péchés. C'est sale, il faut aller se cacher. Moi, c'est mon stop, quoi.
Pour revenir à ton parcours, quand tu décides de te remettre au sport, est-ce que assez rapidement, naturellement, tu vas vers les sports de combat?
Ouais. En même temps, c'est ce que j'ai.
T'étais partie de chez papa, donc t'avais le droit.
J'avais le droit, exactement. Bon, lancer, je pouvais plus, hein, parce que même si mon épaule, elle allait bien, je pouvais pas relancer, et j'avais besoin de challenge. Après, c'est pas forcément moi qui ai choisi le grappling et le MMA. Donc, à la fac, j'avais découvert un petit peu la boxe française, donc j'en avais fait pendant un an. Mais voilà, quoi. Bon, certes, j'avais un très très bon niveau. Je pense que j'avais des aptitudes pour ça, mais sans plus. Et en fait, je me mets au sport de combat par hasard, parce que j'ai un. En fait, dans la continuité de la boxe française et de la boxe éducative que j'enseignais, j'ai décidé de faire rentrer le MMA, alors que je connaissais pas, hein, le MMA et le grappling dans les lycées, et j'organise un stage.
Mais pourquoi ?
Mais parce que c'est génial. Je crois que j'adore la bagarre, mais non, mais en fait, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Ça m'a toujours attiré. C'est en fait tout ce qu'on peut apprendre et tout ce qu'on peut faire en MMA. Je crois que les gens, ils ont pas idée, quoi. Tu peux boxer, tu peux faire des prises où tu soumets les gens par des étranglements, des clés bizarres, moi, des trucs improbables que en vrai t'aurais vu que dans les films, mais ça marche pour de vrai, quoi. Et il y a ce côté là de. Quand je fais du MMA, je fais tout. Je fais le kung-fu, je fais de la boxe, je fais de la boxe thaï, je fais du jiu-jitsu brésilien. Tu fais tout, quoi. Donc,
mais pour les gens qui savent pas, donc le MMA, c'est le fameux, c'est multi-martial art, c'est ça?
Ouais, mixed martial art.
Mixed martial art.
Ouais.
Où tu peux faire tout, en fait, voilà.
C'est ça. En fait, tu peux. Moi, quand
pieds.
On dit tu peux faire tout, voilà, c'est de la percussion, de l'appréhension.
C'est ça.
Voilà, percussion, donc les coups, l'appréhension, les saisies, la lutte, etc., les projections. Donc les takedowns, les prises de judo, parce que les gens voient plus un petit peu de judo. Les soumissions, des étranglements, les clés de bras, etc. Et ce qu'on appelle le ground and pound, les frappes au sol. Voilà, mais après, on ne peut pas tout faire, quoi. On ne peut pas mettre les doigts dans les yeux.
Mais ce n'est pas non plus du combat de rue, quoi.
Non. c'est très, très... Il y a énormément de règles. Et en fait, moi, j'ai toujours été fascinée par les sports de combat. C'est-à-dire que moi, à la fac, je n'allais pas en soirée étudiante. Je restais chez moi et je regardais le Tokyo Dome, ce genre de choses. Je suivais le Pride, etc. Et il y a l'UFC, comment je l'ai connu ? Je l'ai connu avec la PlayStation.
Ah, le jeu ?
Ouais. Génial. Ouais, moi j'étais un peu. Voilà quoi. Quand je te dis, j'étais capable de faire ce genre de défi. Moi j'étais capable de défier un collègue en plein milieu du foyer avec les étudiants, jouer à PES, lui mettre une raclée par chance, hein, parce que j'étais nulle, et sortir en disant, bah c'est bon, j'ai gagné à vie et j'avais la. Et mes élèves, ils m'adoraient quoi. Ah, bah arrêtez, là, c'est la plus forte.
C'était ce genre de meuf, tu gagnais un match et t'étais là, c'est bon, j'ai gagné à vie.
J'ai gagné à vie, on rejouera plus. Et avec les étudiants, les petits au foyer, les élèves, ils jouaient à l'UFC, ils jouaient à machin. Et je me suis dit, mais en fait, il y a deux références en France. Il y a Zidane et il y a Cheikh Kongo. Et ben, Zidane, je pourrais pas l'avoir. Et en même temps, je vois pas ce que ça pourrait apporter. Même si aujourd'hui, je me dis, oui, ça aurait pu apporter. Je vais faire venir Cheikh Kongo. Donc, je le contacte sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en disant, voilà, je suis prof de PS, je voudrais organiser un stage, machin. Alors, c'est de l'UNSS, voilà. Donc, nous, on peut vous payer. Donc, j'ai demandé à mes collègues. Donc, je crois qu'on pouvait payer genre 300 ou 400 balles. Est-ce que ça vous intéresserait? Et le mec me répond oui. Donc, moi, je suis sur le cul en me disant, ah oui, il a dit oui. C'est pas une blague, hein. Et il vient avec Vincent Parisi. Et ils font un stage. Mes collègues, ils ont halluciné de voir un mec comme lui, parce que Cheikh, c'est quelqu'un qui donne énormément. Donc moi, je le vois descendre de la voiture. Donc je vois Vincent Parisi devant moi. Donc déjà, je vois deux Golgothes.
Ouais.
Et je vois un mec qui me parle avec une toute petite voix et qui a un petit cheveu sur la langue. Et je me dis, mais c'est une blague, ils sont en train de se foutre de ma gueule et tout. Et en fait, non. Tu vois, ce mec grand, costaud, balèze avec sa petite voix, je me dis, waouh. Ouais. Et du coup, bah, c'est comme ça que je fais venir le MMA. Je découvre, moi, avec mes élèves, quand il y a le stage et que j'aide Cheikh dans les techniques et je corrige les élèves. Moi, les élèves ont l'impression que ça fait 20 ans que je fais du MMA et machin, parce que moi, je vois un truc, je le retiens, je le fais.
Ah, ok.
Et donc voilà, le truc me plaît énormément, donc je continue pour les élèves, parce que de base, moi, je le faisais que pour eux. Donc, je fais venir Cyril Diabaté avec des combattants de la Snake Team. Bon, après, j'ai eu le poste à la fac. Donc, voilà. J'ai eu, quand je travaillais, avant d'être à la Sorbonne, j'étais en vacation à P7, où je donnais 2-3 heures par semaine.
C'est quoi P7, c'est
Paris
quoi
7.
Ah, Paris 7.
Ouais, oui, pardon, excuse-moi. Paris Diderot. Et là, j'organise un voyage scolaire. J'emmène mes étudiants voir l'UFC à Londres.
Ah ouais.
Ouais, moi j'étais ce genre de prof.
Pas mal.
Et du coup, j'ai un petit étudiant à Sartrouville.
Est-ce que tu le fais aussi parce que tu as envie d'y aller toi avant tout et tu te dis, bah, tant qu'à faire, autant allier l'utile à l'agréable?
Ouais, il y a de ça aussi, mais parce que je me dis, en fait, j'aurais aimé m'avoir comme prof de PS.
Ouais, je comprends.
Sans vouloir me la raconter, mais.
Ouais, t'as l'air cool.
Mais pas que pour ça, hein, mais pour tout ce que j'apporte. Moi, je suis le genre de prof. J'ai un élève, Christopher Bibacou, qui est venu me voir en première et qui m'a dit, madame, je veux être footballeur professionnel. Mais tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et moi, je lui ai dit, ouais, on va monter le projet. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1 à Malte. Et je suis toujours avec lui. Et voilà, je suis sa conseillère sportive et je l'accompagne. Et on est en train de monter sa carrière.
C'est génial.
Et quand je faisais course d'orientation, moi, course en durée, pardon, avec mes étudiants, il était hors de question que je laisse les gamins galérer et courir tout seul, quoi. Ceux qui avaient du mal, bah, j'étais là avec eux et je les motivais et je courais. Et même si j'avais 5 cours de suite de course en durée, j'allais courir les 5 fois avec les gamins, parce que il faut à un moment donner l'exemple aussi et leur montrer qu'on n'est pas là que pour leur donner des ordres. Tu dois faire ça, tu dois compter comme ça. Non, ça se construit, on y va ensemble, on va le construire, t'inquiète, si t'y arrives, c'est bien, si t'y arrives pas, c'est bien aussi, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu viens dans mes cours, t'as toujours une note au départ, tout le monde a 20 sur 20, et... Non mais c'est vrai, tout le monde avait 20 sur 20, et si t'oublies tes affaires, si tu parles mal, je t'enlève des points, et puis à côté, il y a la note de performance, donc ça veut dire que même si t'es nul en EPS, et que c'est pas ton truc, t'as un 20 coef 1, et puis après t'as ton autre note qui est coef 2, donc tu peux avoir la moyenne. Donc, tu t'en sors plutôt bien. Et donc, j'avais cet étudiant qui se débrouillait bien en boxe et en grappling et qui voulait faire du MMA. Et en fait, Cheikh, il a un club à Colombes. C'est le Congo Smashing Club. Et c'est géré par son frère d'une autre mère, on va dire, voilà, son super pote. Et du coup, j'emmène le gamin là-bas et c'est comme ça que je découvre le grappling et le MMA et que je me lance, en fait.
Et que tu décides toi-même d'y aller.
Ouais, je décide d'y aller. J'ai eu un petit accident de parcours où je me fais percuter. Je suis à pied sur un passage pour piétons par un... Bon, c'était une agression raciste. Et j'en ai gros sur la patate. Et quand j'arrive au club...
Ah oui, tu te fais taper dans la rue, c'est ça?
Alors ça m'arrive aussi, mais j'étais à pied. Je partais du lycée de Sartrouville, j'allais à la gare pour prendre le train et aller donner mon cours à Paris 7. Et en fait, je traverse sur un passage pour piétons et il y a une voiture qui me percute. Voilà. Parce qu'il estimait que je mettais trop de temps pour traverser et que moi, l'arabe que je suis, je n'avais pas à traverser devant lui. Et cette plainte a disparu. Voilà, donc voilà, moi je dépose plainte au commissariat de Sartrouville. Après, on me dit que la plainte a été envoyée à Rueil-Malmaison ou Saint-Germain et qu'ensuite elle est repartie je sais pas où. Bref, ma plainte disparaît.
C'est dingue.
Ouais, mes témoins n'ont jamais été écoutés. Mes témoins, les gens qui étaient là dans la rue et qui ont voulu témoigner. Bon, enfin bref. Et le coach Ali sent que j'en ai gros sur la patate, donc j'ai la main blessée dans une attelle, je suis en arrêt maladie. Et je vais quand même au club parce que Désiré devait passer. Et là, il sent que ça va pas bien. Et il me fait mettre les gants. Et en fait, je me rends compte que j'ai quoi, un an de pratique de boxe française il y a 8 ans, même plus, il y a 10 ans. En fait, je boxe toujours super bien. Tout le monde pense que je fais de la boxe depuis super longtemps, alors qu'en vrai, non. Physiquement, je suis là. Moi, j'ai toujours eu mon préparateur physique. Quand j'étais à Dijon, c'était Comiti. Donc, c'est quand même une grande référence au niveau de la prépa physique. Et je suis là, en fait. Et je me dis, waouh, en fait, j'ai rien perdu. Et en fait, c'est génial. Et j'ai même pas mal à l'épaule. Et je peux me lancer, quoi. Et voilà.
Ok. Et donc, tu te lances dans le MMA, c'est ça? Et en fait, de fil en aiguille, tu finis par te mettre au grappling, alors qu'il y a une pratique qui ressemble plutôt à de la boxe, justement, à de la lutte, non, c'est ça?
Ouais, ça ressemble au jiu-jitsu brésilien. C'est un peu près les mêmes règles. Et en fait, c'est un sport un peu un mélange de lutte et de jiu-jitsu brésilien où on part debout, on combat debout, donc ça commence avec de la lutte. Il n'y a pas de frappe. On peut projeter au sol, donc amener au sol et soumettre. Voilà. Et en fait, je me mets un peu... Donc, c'est une partie... le grappling, c'est très important en MMA.
Oui.
Parce qu'il faut avoir des bases au sol qui sont solides. Même si le sol du grappling est différent de celui du JJB et que le sol du MMA va être un petit peu différent aussi du sol pur grappling JJB. Et donc, il a fallu que j'apprenne ce sport que je qualifiais au départ de barbare. Mais c'était dur. On se rend pas compte, en fait. Moi, je tournais qu'avec des mecs. J'avais pas le droit de tourner avec les nanas. Les mecs, ils étaient super lourds. Mais au départ, quand tu les as sur les côtes, ça fait super mal quand tu rentres.
Pourquoi tu pouvais pas... Quand tu dis tourner, c'est combattre...
Ouais, s'entraîner, ouais.
Ouais, s'entraîner. Pourquoi tu pouvais pas combattre avec des filles?
Alors déjà, moi, dans mon club, il y avait... pas de filles. Déjà, ça règle le truc. Mais j'allais m'entraîner à côté à Nanterre au NCU. Eux avaient quelques nanas. Donc, il y en a quand même quelques-unes qui tournaient avec moi. Mais parce qu'elles savaient en tout cas au début, mais parce qu'elles savaient qu'elles me faisaient la misère. Et après, j'avais plus le droit parce qu'on estimait que j'étais trop lourde et que j'étais trop puissante. Trop brusque, trop.
Ok.
Voilà.
Donc, Donc, de ce fait-là, ces filles voulaient plus combattre avec toi, c'est ça? Ou alors c'était ton entraîneur qui disait c'est trop facile pour toi?
Alors, c'était pas dans le sens c'est trop facile pour toi, c'est dans le sens attention, mes petites meufs, tu vas les blesser, quoi.
Ok.
Voilà.
D'accord. Donc il te disait va plutôt te taper les mecs qui font 20 kilos de plus que toi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et j'ai le souvenir d'une fois où il y a une nana qui voulait pas tourner avec moi au NCU, donc à chaque fois elle esquivait, etc. Et elle vient tourner dans mon club. Et là, je me dis, bah, bingo, aujourd'hui, je te tords. Pardon, mais c'est chiant parce que
Tu leur en voulais de ce fait-là?
Ah ouais, parce que moi, on m'envoie au charbon avec des mecs. En plus, c'est des nanas qui avaient des ceintures marron, des ceintures noires. Moi, j'étais ceinture blanche. Donc,
qui était censée être plus forte que toi.
Exactement. Et elle est dans le club et je regarde mon coach et je lui dis, bah, je vais tourner avec elle. Et là, mon coach me dit, non, Jen, tu tournes pas avec elle parce que t'es beaucoup plus lourde qu'elle. Je lui dis, ouais, et ? Il me dit, ouais, bah, y a trop d'écart de poids. Je lui dis, ah, mais donc quand toi, tu m'envoies tourner avec les mecs qui font 90 kilos, tu leur dis pas, les gars, doucement, Jen, elle fait pas votre poids. Il me dit, ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé dans ce sens-là, sans déconner. Tu n'avais pas pensé. Est-ce que tu entendais mes côtes faire crack? Et du coup, voilà. Donc, il a fallu que j'apprenne le grappling. Ça a été très, 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 très dur. Et en MMA, on n'arrivait pas à me trouver de combat. Ni en MMA, ni en pancrace. Et du coup, bah, mon coach me dit, bah, on va faire les compètes de grappling. Comme ça, ça va t'apprendre un peu le sol. Alors, moi, j'estimais que j'étais très, très nulle. Et première compétition, c'est le NAGA, donc c'est une grosse organisation américaine qui ramène tout des États-Unis et qui fait des compétitions partout en Europe. Je remporte le NAGA. Bon, bah, génial.
Comme ça.
Ouais, bon, j'ai fait de belles boulettes. Hein. Oui, mais... Notamment une soumission que j'ai voulu mettre, un juji, et je l'ai fait dans l'autre sens. Et je regarde mon coach et je dis, mais ça marche pas. Et qui me dit non, mais lâche. Parce qu'en fait, au lieu de tendre son bras vers l'arrière, je l'avais ramené sur elle. Quoi. T'as une grosse débilité, quoi.
Et mais ceci dit, tu venais de démarrer, donc ouais. T'étais vraiment...
Ouais, ouais, t'étais avec le recul, quoi. Ça me fait rire, ouais. Quoi. Et du coup, je remporte tout et je suis qualifiée en équipe de France. Donc voilà, un an et demi de pratique, ouais.
Ok.
Ouais, ouais. Et de là, bah, je vais au championnat d'Europe. Où le stress, le truc, bon, je perds tous mes combats. Mais je les perds genre rapidement, quoi.
Ah, tu te fais...
Ouais, torcher. Je me fais bien torcher, ouais.
À cause du stress, c'est ça ? Tu perds un peu tes moyens ?
Ouais, ouais, ouais. Et puis... ouais, c'est surtout le stress, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et donc, du coup, toi, dans l'équipe de France, on me regarde un peu l'air de dire... ok, pourquoi on l'a ramené, celle-là ? Et après...
Ça te saoule un peu quand on te regarde comme ça ?
C'est après que ça va me saouler. Ah. Là, pour le coup, voilà. C'est, mon coach l'a remarqué. Il m'a dit, j'ai bien vu comment ils étaient assis, machin. Et lui, ça l'avait un peu saoulé parce qu'il croyait fort en moi. Et à la fin du championnat d'Europe, il me dit, Jen, écoute, c'est pas compliqué. Dans 4 mois, il y a les championnats du monde. Dans 4 mois, t'es championne du monde. Et
toi, tu dis quoi à ce moment-là ? Ok ? Ou tu te dis, bah, j'ai vraiment de me faire étaler la gueule de toi.
Dans ma tête. Bon, en fait, Ali, il pouvait tout me dire. Je pouvais que le croire. C'était, mais dans ma tête, il y a écrit LOL, quoi. Sans déconner. Et par contre, quand il dit ça, Ali, il m'avait donné cette image un jour en me disant, si un jour tu me dis que tu as envie d'aller sur la Lune, je vais construire cette fusée pour t'emmener sur la Lune. Donc là, on veut être champion du monde, donc on va mettre en place tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Et ça a été 4 mois archi dur physiquement, mentalement. Mais bon, au bout, il y a la consécration, donc c'est chouette.
Mais tu vois, il y a un truc qui est quand même pas pareil, c'est que... Il te dit, si un jour tu me dis, vas-y, viens, moi je veux aller sur la Lune, là, j'ai pas l'impression que t'aies dit, moi je veux devenir championne du monde. C'est plutôt lui qui a dit, écoute, meuf, tu vas devenir championne du monde dans 4 mois. J'ai pas l'impression que t'aies demandé, tu vois.
Non, en fait, j'ai pas demandé, mais j'étais dégoûtée de ce qui s'est passé au championnat d'Europe.
T'es consentante, quoi.
Ouais, exactement. J'étais passive-agressive. Mais en fait, j'étais dégoûtée de ce qui s'était passé au championnat d'Europe parce que j'avais pas pu m'exprimer, en fait. C'est allé tellement vite. Ça allait tellement vite et pourquoi j'étais dégoûtée ? Parce qu'en France, j'avais pas cette opposition et j'avais pas l'expérience en fait. Quand tu t'entraînes pas tout le temps, quand dans les compétitions, bah, ça se passe assez vite et que t'arrives déjà et que les gens te craignent en France parce qu'ils vont dire Jen, c'est une grosse lutteuse, c'est un gros truc, elle est très physique. J'ai pas cette opposition là en fait. Et l'expérience. Et en face, l'italienne et la russe notamment, c'est des nanas qui sont dans le circuit depuis plus de 8 ans où elles se partagent à chaque fois le podium. Ouais, ouais. Et... Donc j'étais un peu dégoûtée de me dire, mais en fait, j'ai réalisé que ces filles-là, elles n'étaient pas meilleures que moi. Et que je pouvais y arriver.
Pourrais les avoir, si tu les avais au quotidien avec toi pour t'entraîner, sans doute, tu progresserais beaucoup plus vite. Quoi,
exactement, ouais.
Ok.
Ouais, ouais.
Et donc 4 mois plus tard, tu deviens championne du monde.
C'est ça. Ça pourrait être une blague, hein, mais...
Mais comment... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre-temps ?
Ah ben, entre-temps, ça a été du travail acharné. Ça a été... mais vraiment, hein, quand je dis du travail acharné, les gens ne se rendent pas compte des sacrifices que ça a été. Ça a été 4 mois où je m'entraînais 3 fois par jour. Physiquement, c'était... moi, le camp d'entraînement qu'on a mis en place, il était juste énorme, quoi. C'était... ouais, beaucoup de... Je regrette pas, hein, mais on dit souvent que l'entraînement... La préparation à un combat, elle est plus dure que le combat en lui-même, et c'est la vérité. En fait, dans les sports de combat, les prépas qu'on traverse, que ce soit en grappling ou en MMA, c'est tellement intense, c'est tellement, ça prend tellement d'énergie, parce qu'en plus, tu dois commencer aussi ta perte de poids. Donc, t'es en train de descendre, t'as la frustration de tu peux pas manger, tu peux pas récupérer comme tu veux, t'as la fatigue, tu termines tes sparring à 22h, t'es excité, tu mets 3h, 4h avant de te rendormir. Et puis physiquement, on te lâche pas, quoi. On te lâche pas. À chaque fois que tu baisses un petit peu les bras, on te met dans la gueule, mais tu crois que c'est comme ça que ça va se passer au championnat du monde, tu vas baisser les bras. Et dans ta tête, tu dis, bah non, je vais pas baisser les bras, mais là, je suis fatigué. Et tu dis, mais en fait, non, j'ai pas le droit d'être fatigué. Donc, tu y retournes. Et puis.
Et à côté de ça, tu continues ton job de prof parce que t'es pas professionnel, j'imagine.
Exactement.
Dire que tu peux pas gagner ta vie.
Non.
En étant championne du monde de grappling, ou en tout cas, on passe de le devenir.
Ouais, non, il y a quand même un grand écart entre les sports qui sont sur les listes olympiques et nous, les autres sportifs qui sont dans des activités qui ne sont pas reconnues, en fait. Et je discutais avec des sportifs justement olympiques et qui ont aussi des carrières professionnelles dans le milieu du handball ou dans le milieu du basket féminin. Et eux ne se rendent pas compte de cette réalité-là. Et je leur disais à chaque fois, mais toi, tu te rends pas compte, t'es à l'INSEP, t'es tranquille, t'es pépère, t'as un salaire avec ton club. Ton club, il peut te trouver un taf, il peut trouver... Nous, tous les examens qu'on a à passer, on paye de notre poche. Parce que pour faire un combat de MMA, faut faire un fond d'œil, faut faire une prise de sang, faut faire un électrocardiogramme, faut faire... certaines fois, il faut faire un IRM cérébral. Bon, tout ça, c'est... T'as la date du combat 2 mois à l'avance. Donc très souvent, les endroits que tu trouves pour pouvoir passer ces examens-là, il y a des dépassements d'honoraires. Ouais. Donc moi, j'ai une sécu, j'ai une mutuelle, j'ai tout ce qu'il faut.
Oui, j'allais dire, on est quand même en France où, a priori, t'as cette possibilité-là, mais c'est sûr que ça reste quand même
la plupart des mecs qui font du MMA, ils n'ont pas forcément de mutuelle. Hein. Ils n'ont pas de complémentaire, ils n'ont pas... Donc ils payent tout de leur poche. Hein. Donc voilà, mais ouais, ça a été dur. Dès que je voyais l'Italienne et la Russe à la pesée, bon déjà la Russe elle avait essayé de tricher à la pesée parce qu'elle n'était pas au poids. Et quand je les ai vues, je me suis dit, wow, aujourd'hui, demain c'est votre fête.
Ah, t'étais sûr de ton coup.
C'est ça, et en fait elle me regardait en disant, ah bah tiens, c'est l'autre bouffonne qu'on l'a tartinée.
Ceci dit, c'était sans doute un bon truc que tu te sois fait rétamer aussi fort parce qu'elles sont arrivées sans doute avec un excès de confiance par rapport à toi. Quoi.
Exactement, oui.
Okay. Comme quoi, parfois, il faut se casser la gueule pour finir par monter sur la première marche. Quoi.
Il faut, mais il faut aussi. Je pense que j'aurais dû avoir plus confiance en moi aussi.
Tu veux dire pendant les championnats d'Europe, c'est ça?
Ouais, les championnats d'Europe et même pendant tout mon parcours, hein, parce que avant la finale des championnats du monde, je suis en panique totale. Je remonte dans ma chambre, je pleure, je suis envahie par le stress et je sais pas comment ça va se passer en fait.
C'est pas grave ça de pleurer, enfin tu vois, d'avoir des émotions, je trouve. Tant que tu t'écroules pas sur le tapis au moment où il faut.
Ouais, mais justement, je suis montée dans ma chambre pour pas m'écrouler.
Ouais.
Mais.
Enfin, moi, ça me choque pas, tu vois. Tu le vivais mal de.
Non,
parce que. L'émotion de pleurer juste avant le combat et tout.
Non, moi j'en ai besoin en fait. Ça, ouais. Voilà. À chaque fois que j'ai eu un truc compliqué, ça a toujours été comme ça, mais. Mais je me dis, mince, quoi, y a quand même plein de fois où, quand je combats au 100% fight, par exemple, je suis en panique, je suis en stress complet. Et là, mon coach a l'idée du siècle de me dire, en fait, Jane, on a prévenu tes élèves et il y a tous tes étudiants dans les gradins. et moi, je le crois, tu vois, je me dis, bon. Et quand j'arrive dans le ring, et en fait, lui, il avait dit au mec, criez, allez, madame, quoi. Et j'entendais des, ouais, allez, madame, allez, madame. Et je me disais, putain, merde, en fait, c'est vrai, il y a tous mes étudiants dans les gradins. Là. Et à la fin, il me dit, bah non, en fait, c'est pas vrai, quoi. C'était pas tes étudiants, c'est moi qui ai mandaté les mecs. Et parce qu'il savait qu'il n'y avait que ça, quoi. Ma première compète de pancrace, mais j'ai cru que mon coach, Ali, il allait me jeter sous une voiture. non, j'y vais pas. Non, Ali, viens, on rentre. Mais de toute façon, la nana, elle est pas au poids. Puis en plus, et c'était une nana avec qui j'avais déjà tourné au sol dans un parc. Et elle m'avait laminé. C'était vraiment les toutes premières fois où je faisais du sol. Et du coup, j'avais peur et j'avais pas envie de perdre et j'avais pas envie de. Et mon coach, il me dit non, mais t'inquiète. Et puis au bout d'un moment, il me dit bon, bah ok, c'est bon, prends tes affaires, on y va pas. Ouais, non, quand même, on est venu jusqu'à Montrouge, non, je vais y aller. Et tu vois, c'est que ça. C'est que ça. Et des fois, faut que j'aie un petit peu plus confiance, ouais.
Mais comment t'as fait alors pour te dire c'est bon, on y va?
Bah, je crois que j'avais plus le choix. En fait, il était l'heure. On m'a appelé. On a dit Jeanne Abdelila, troisième ring. J'ai dit bon, bah, je peux plus reculer. Hein. Bon, bah, j'y vais. Et voilà.
Ok. Donc, en fait, j'imagine que tu racontes tout ça aussi par rapport à la confiance en toi, etc. C'est par rapport à ce que tu as monté là dernièrement. Tu as monté donc la Jeanne Academy.
Ouais, ça fait très égocentrique, mais ouais, ça s'appelle la Jeanne Academy.
C'est un prénom hyper classe, franchement.
Hein, merci.
C'est classe, quoi, tu vois. Tu t'appelles pas Robert, tu vois, par exemple, c'est ça?
Non, mais Robert Academy, ça aurait pu en jeter un max.
Je trouve que Jeanne Academy, ça claque. Donc, ouais, d'où t'es venue cette idée, en fait?
En fait, on m'a toujours demandé de donner des cours un peu partout. J'ai donné des cours dans plein de clubs de MMA différents pour des nanas. Et le dernier club où j'étais à Malakoff, ils ont décidé de fermer la section que je donnais, là, les cours de MMA féminin, parce qu'il n'y avait pas assez de meufs, parce que ça ne leur rapportait pas assez d'argent. Mais en même temps, ça faisait qu'un an et demi qu'ils avaient créé la section, donc il fallait attendre un petit peu. Et je me suis retrouvée avec 15 meufs qui m'ont dit « Mais en fait, Jeanne, si tu pars, nous, on continue pas avec eux. Nous, ce qu'on veut, c'est les cours de MMA, quoi. » On est allé tester un ou deux cours avec les mecs, mais les gens, ils ont pas ta pédagogie. Le mec, il va nous dire « L'enchaînement, c'est ça. » Il va le dire une fois, il va le montrer. Nous, on n'a rien capté, on sait pas de quoi il parle, on sait pas. Alors que toi, quand on est dans tes cours, il y a une vraie pédagogie, t'as une manière de nous expliquer les choses, de prendre le temps, de nous réexpliquer, Il dit là, on était perdus, ça ne nous plaît pas, quoi. Et du coup, j'ai appelé la mairie de Malakoff et je leur ai demandé une salle pour pouvoir continuer les cours. Donc, j'ai eu la salle, il y a eu le Covid. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Je donnais des cours en extérieur dans le parc, je ne sais plus quel parc à Paris, là. Et la mairie de Malakoff me demande de créer mon association. Donc, je crée mon asso. Et après, bon, il y a un changement au niveau de la mairie, du service des sports, c'était les municipales, juste après le début du Covid. L'association où je donnais les cours de MMA féminin met la pression au nouveau directeur des sports et je me retrouve du jour au lendemain sans salle, avec 15 nanas et pas de salle.
Et là, c'est le cas aujourd'hui.
Et là, c'est toujours le cas, ouais. Donc, je suis en train de chercher, mais. C'est compliqué de s'implanter dans des endroits, dans des mairies ou des communes où il y a déjà plein d'associations. Pour l'instant, j'ai trouvé qu'une structure privée. Je vais voir si financièrement... parce que pour l'instant, mon asso, comme elle n'a pas démarré, je n'ai pas de subvention, j'ai pas...
C'est le moment de faire une petite annonce. Il y a des gens qui écoutent, tu sais, qui sont à la tête de boîte et tout, tu vois.
Et ben voilà, je fais un appel aux subventions pour la Jeanne Academy.
N'hésitez pas, vous m'envoyez un message, voilà. Je ferai suivre.
C'est cool.
Avec grand plaisir. ton objectif, c'était quoi en fait? C'était justement de sensibiliser les filles au sport de combat, c'est ça?
Exactement, ouais. En fait, moi, j'ai déjà le versant où j'ai mon entreprise de coaching, où je donne des cours en entreprise ou aux particuliers, mais je voulais garder un lien quand même avec le tissu associatif et pouvoir donner la possibilité aux personnes qui n'ont pas les moyens de me prendre en coaching privé, de pouvoir pratiquer une activité physique à l'année sans que ça leur coûte plus de 300 balles, quoi. Donc, c'était un petit peu ça. C'était aussi une façon, via cette association, de créer du lien social, parce que je me suis rendu compte que la plupart des nanas que j'avais, en tout cas à Malakoff, c'était soit des étudiantes, soit des mères qui s'occupaient de leur enfant toute seule, soit des nanas qui bossaient tellement qu'elles n'avaient pas le temps d'avoir de vie à côté. Donc il y avait ça, et puis c'était des nanas qui n'avaient pas confiance en elles, quoi. Ça, j'y arriverai jamais, je pourrais jamais faire ça. Donc moi, il y a des mots que j'avais bannis dans la salle. Je n'y arriverai pas, on n'avait pas le droit de le dire. Je pourrais pas, on n'avait pas le droit de le dire. Mmh. Et voilà, donc je me suis servi des sports de combat pour leur apporter autre chose, et notamment la confiance en soi, l'estime de soi, le fait d'avoir de l'estime pour soi, parce que ces nanas-là, très souvent, elles l'ont perdu de par leur parcours. Et aussi bah, le bien-être de ce que ça fait, de comment on se sent après une séance très très intense. Et c'est aussi un moment pour prendre soin de soi. Après, c'est assez particulier parce que moi, je veux avoir des créneaux où les mamans peuvent venir même si elles n'ont personne pour garder leurs enfants.
Ouais.
Donc, ça ne peut pas être le soir ou en tout cas tous les soirs. Je peux pas ouvrir des créneaux tous les soirs 18-20 heures. Ce n'est pas possible. Donc, moi, c'est plutôt le samedi 10h midi ou 11h 13h.
Donc, les mômes, ils viennent avec, c'est ça? Ils jouent à côté, j'imagine?
Ouais, exactement, okay. Ouais.
Trop cool.
Donc, voilà.
Bah, merci beaucoup, Jienne, franchement.
Bah non, merci à
toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas posé de questions et sur lequel tu voudrais t'exprimer?
Il y en a beaucoup. Moi, je suis une vraie pipelette. Mais non, je crois que ce qui était important pour moi, c'était... à travers mon parcours de montrer une image un petit peu plus badass de la femme, entre guillemets, de prouver à toutes ces jeunes femmes et toutes ces jeunes filles que en fait rien n'est impossible, quoi. Si j'arrive dans le MMA à 33 ans après avoir été travailleur handicapé et qu'en un an et demi j'arrive à devenir champion du monde, en vrai je suis pas une exception. Tout le monde peut arriver à atteindre ses objectifs, quel que soit son niveau et ses objectifs. Et je crois qu'il faut juste... le message, c'était juste lancez-vous, quoi. N'ayez pas peur.
Bah écoute, voilà. On va conclure là-dessus, hein, je crois. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de mieux? Un grand merci à toi, Jienne.
Bah non, merci à toi. Salut.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du succès.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.